VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du jeudi 25 août 2022. Avec vous, Eric Manelakidza. Voici d'abord le sommaire. Élection en Angola. Le président sortant est en tête selon des résultats encore partiels. L'opposition est en passe de réaliser un score historique. Le président français Emmanuel Macron est arrivé en Algérie pour relancer les liens bilatéraux. Situation incertaine en Éthiopie et inquiétude internationale après la reprise des combats entre armée fédérale et rebelles du Tigré. Multiples bombardements russes en Ukraine le jour de l'indépendance. Au moins 25 morts dans une frappe hier sur une gare ferroviaire. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Angola, le MPLA, ancien parti unique et au pouvoir depuis 1975, est en tête avec 52,08% des voix selon la commission électorale au lendemain des législatives. Ces résultats encore partiels, mais comptabilisant plus de 86% des votes dépouillés du scrutin, indique que le président sortant, João Lourenço, se dirige vers une probable victoire face à son rival de l'opposition, Adalberto Costa Junior. Jacques Aristide.
Quelques 14,4 millions d'électeurs étaient attendus dans 26 000 bureaux de vote hier. Pas d'élection présidentielle en Angola. Le candidat du parti vainqueur aux législatives est automatiquement investi chef de l'État. Pour la commission électorale, les élections sont un succès et se sont déroulées de manière exemplaire. L'opposition et une partie de l'opinion publique s'interrogent toutefois sur des risques de fraude. Des observateurs étrangers sont sur place. Le département d'État américain a félicité l'Angola pour le déroulement du vote. Le MPLA, le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, est de plus en plus impopulaire dans un pays riche en ressources naturelles, mais plongé dans de graves difficultés économiques. Le chef de l'État sortant, João Lourenço, 68 ans, croisait le fer avec le leader de l'opposition, Adalberto Costa Junior, 60 ans, dont le parti UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, ancien mouvement rebelle, réunit des jeunes désenchantés et les oubliés de la croissance.
Le président français Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui en Algérie pour une visite officielle de 3 jours. Paris entend tourner la page des débrouilles et a refondé une relation qui restait marquée par le poids du passé colonial. Les principaux sujets à l'ordre du jour de la visite avec Mohamedou Ouf.
Lors d'un tête-à-tête à la présidence, les présidents Macron et Tebboune vont discuter de la situation au Mali, d'où l'armée française vient de se retirer, et de l'influence russe, grand allié de l'Algérie et son premier fournisseur d'armes. L'Algérie partage des milliers de kilomètres de frontières avec le Mali, le Niger et la Libye. La question des visas attribués par la France sera aussi au cœur des discussions. Emmanuel Macron a décidé l'an dernier de les diviser par deux face à la réticence d'Alger à reprendre des ressortissants indésirables en France. Aussi, l'Algérie, premier producteur de gaz en Afrique, est très sollicitée par des Européens depuis le début de la guerre en Ukraine. Toutefois, l'Élysée a assuré que le gaz algérien n'est vraiment pas l'objet de la visite et il n'y aura pas d'annonce de grands contrats ou de grandes négociations de ce type. La visite coïncide avec le 60e anniversaire de la fin de la guerre et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Mais le président Macron va rencontrer vendredi des jeunes entrepreneurs algériens avant de se rendre à Oran, la deuxième ville du pays.
La France a appelé autorités éthiopiennes et rebelles tigréens à cesser immédiatement les combats et reprendre les négociations. L'Union africaine a multiplié les contacts via son envoyé spécial, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Des émissaires américains, européens et onusiens se sont également rendus à Mekele, capitale du Tigré, début août. Cette reprise des combats hier dans le nord de l'Éthiopie entre l'armée et les rebelles du Tigré a suscité des réactions de la communauté internationale. Le gouvernement et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir déclenché ces affrontements dans les régions de la Mara et de la Far. Nathalie Barche.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé les deux parties à mettre une fin définitive au conflit et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a appelé à désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère à nouveau en guerre à part entière. Ces nouveaux combats vont aggraver la situation humanitaire déjà catastrophique, s'est alarmée la ministre britannique de l'Afrique, Vicky Ford. La trêve conclue fin mars avait permis la reprise de l'acheminement de l'aide humanitaire par la route vers le Tigré. Le vice-premier ministre et chef de la diplomatie éthiopienne, Demeke Mekonnen, a répété lors d'une réunion avec des diplomates que le gouvernement défendra l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Il a accusé les rebelles de ne pas reconnaître les mesures de paix prises par le gouvernement. Hier, le chef des rebelles du Tigré, Debretsion Gebremichael, a reconnu que deux séries de discussions avaient eu lieu avec des responsables civils et militaires. Il a accusé le gouvernement éthiopien de ne pas avoir respecté des engagements pris lors de ces rencontres. Ces derniers jours, les deux parties se sont accusées mutuellement de se préparer à la guerre.
Le général ougandais Edith Mwine est décédé jeudi à Nairobi des suites d'un cancer du poumon, a annoncé le président Yoweri Museveni. Les deux hommes ont combattu ensemble au sein de l'armée de résistance nationale contre le régime de Milton Obote au début des années 80. Sous le règne de Museveni, le général Mwine a occupé divers postes dans l'armée et l'appareil sécuritaire comme commandant en chef de l'armée, directeur général du renseignement et ministre de la Sécurité. L'OMS a indiqué jeudi avoir observé une réduction de 21% des nouveaux cas de variole du singe recensés la semaine dernière dans le monde, avec un début de ralentissement de l'épidémie en Europe. Mais l'Organisation mondiale de la santé est loin de se réjouir de la situation et constate une transmission intense de l'épidémie sur le continent américain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine dénonce le bombardement russe meurtrier qui a frappé la veille une gare du centre du pays et fait, selon elle, au moins 25 morts civiles, alors que Moscou affirmait de son côté avoir visé un train militaire et tué des soldats. Le point avec Abdelrahman Dia.
Nous allons faire en sorte que les agresseurs payent pour tout ce qu'ils ont fait et nous allons les chasser de notre terre, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky en annonçant et dénonçant cette frappe de missile russe sur la gare dans un discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie affirme, elle, avoir frappé un train militaire en partance pour les zones de combat de l'est de l'Ukraine et tué plus de 200 soldats ukrainiens. Perpétré le jour de la fête nationale ukrainienne, le bombardement sur la gare de Tchapliné a été fermement condamné par l'Union européenne. Pour sa part, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a demandé ce jeudi au président russe Vladimir Poutine de mettre fin, je cite, à l'attaque armée contre l'Ukraine, réclamant par ailleurs la démilitarisation de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Selon les autorités ukrainiennes, les Russes ont intensifié leurs tirs dans plusieurs régions mercredi, jour de fête nationale.
Les États-Unis ont condamné le projet de la Russie d'organiser des procès à Mariupol afin d'y juger des prisonniers de guerre ukrainiens et soulignent leur caractère illégitime. Selon Washington, Moscou vise ainsi à détourner l'attention de la communauté internationale face aux atrocités commises par les forces russes en Ukraine depuis l'invasion russe de ce pays le 24 février dernier. Le président russe Vladimir Poutine a signé jeudi un décret ordonnant d'augmenter de 10% le nombre de militaires que compte l'armée en pleine offensive contre l'Ukraine et sur fond de tensions croissantes avec les pays occidentaux. L'armée devra compter 2 millions de membres. Cela représente une augmentation de 137 000 militaires, soit plus du dixième de la force de combat actuelle. Le président français Emmanuel Macron promet aux enseignants français un salaire de 2000 euros net par mois au début de leur carrière. Devant des responsables d'enseignement réunis à l'université de la Sorbonne à Paris pour leur rentrée, M. Macron a évoqué une poursuite de la revalorisation générale de la rémunération commencée il y a 2 ans. L'ex-présidente chilienne Michelle Bachelet a dénoncé jeudi la multiplication des attaques du président brésilien Jair Bolsonaro contre le pouvoir judiciaire. Ce qui me semble le plus inquiétant, c'est que le président appelle ses partisans à protester contre les institutions judiciaires et Le système de vote électronique a affirmé Madame Bachelet qui quitte le 31 août ses fonctions à la tête du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, nous retrouvons Nathalie Barge dans 5 minutes éco.
Au Gabon, la commercialisation de biocarburants à base d'huile de palme est en cours d'élaboration pour une mise à disposition aux consommateurs d'ici 2023, selon des prévisions budgétaires pour les 3 prochaines années. La construction d'une usine de production d'agrocarburants est prévue au sud de Libreville, près du site de stockage d'hydrocarbures. À l'approche de son sommet triennal avec l'Afrique, le Japon dit vouloir soutenir un développement mené par les Africains eux-mêmes. 5000 participants, dont 30 chefs d'État et de gouvernement africains, sont attendus au sommet TICAD 8 ce week-end à Tunis. En plus de 130 millions de dollars d'aide alimentaire, le Japon va fournir une assistance pour la production de riz afin de la faire doubler à moyen terme. Selon une étude du groupe de réflexion américain Rand Corporation, la Chine a fait appel à des services de compagnies de sécurité privées dans 14 pays africains et exporté des armes vers plusieurs pays du continent entre 2018 et 2021. L'étude indique que ces sociétés ont opéré en République démocratique du Congo, en Guinée, au Mali, en Centrafrique et à Djibouti, entre autres pays, et que Pékin a exporté des armes vers 13 pays africains, dont l'Algérie, le Gabon, la Centrafrique, la Mauritanie et le Rwanda.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Ce soir, Nanit Talani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Eric.
On commence avec le football en Angleterre. Des dépenses déjà records pour le mercato d'été.
Et oui, à une semaine de la fin des transferts, la Première Ligue a déjà battu son record de dépenses pour un mercato d'été, a annoncé ce jeudi le cabinet d'études financières Deloitte. Selon ses analystes, près de 1,8 milliard d'euros a été dépensé à ce jour par les 20 clubs de l'élite anglaise pour se renforcer contre 1,7 milliard d'euros à l'intersaison en 2017, qui était jusqu'ici la référence. Ce montant devrait encore évoluer d'ici à la fermeture du marché le 1er septembre à minuit, heure de Paris, et il n'est pas impossible que cela dépasse dès cet été le record absolu pour une saison entière, établi en 2017-2018 avec 2,2 milliards d'euros. Pour le moment, 135 joueurs se sont engagés en faveur de clubs de Première Ligue, plus qu'en 2019 et 2020, et tout près des 148 de 2021.
Parlons du Mondial 2022, les matchs de l'Argentine sont les plus demandés.
Tout à fait. Les billets pour les matchs de groupe de l'Argentine contre le Mexique et l'Arabie Saoudite ont été les plus demandés à moins de 3 mois de la Coupe du Monde de football au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre, selon le chef du tournoi. Un total de 2,45 millions de billets ont été vendus pour la première Coupe du Monde de foot organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe, a annoncé la FIFA la semaine dernière. Au total, 1,2 million de visiteurs sont attendus au Qatar.
Tennis US Open, Novak Djokovic annonce son forfait à l'US Open, faute de vaccin anti-Covid.
Effectivement, Novak Djokovic a annoncé ce jeudi, peu avant le tirage au sort du tableau, qu'il ne pourrait participer à l'US Open qui débute lundi parce qu'il ne peut pas se rendre aux États-Unis, faute d'être vacciné contre le Covid-19. Djokovic, qui a remporté cet été à Wimbledon son 21e titre du Grand Chelem, espérait pouvoir tenter d'égaler à New York le record de 22 titres majeurs de Rafael Nadal. Pour la deuxième fois de sa carrière après 2017, il manquera le majeur américain qu'il a remporté 3 fois en 2011, 2015 et 2018. Il a aussi remporté consécutivement l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon. Cette année, il a été expulsé d'Australie juste avant le début du tournoi au terme d'un imbroglio politico-juridico-sanitaire lié à sa non-vaccination contre le Covid-19. Puis il avait perdu en quart de finale à Roland-Garros face à Nadal.
Merci Nanit pour l'espoir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza, place au dossier du jour. Activités dangereuses, violation des clauses d'un cahier de charges, et ce sont là les chefs d'accusation retenus contre une société minière chinoise qui exploite de l'or au Cameroun. Un procès inédit s'est ouvert au tribunal de Batouri, à plus de 400 km de Yaoundé, contre cette société dénommée Menchenu Wang Woping, suite au décès l'an dernier de 4 personnes sur son chantier. Plus de détails avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jultap.
Adrien est encore sous le choc de la disparition de son fils, inhumé il y a un an. Accompagné de son mari, Adrien s'est présenté à l'ouverture du procès contre la société minière chinoise.
C'est un enfant qui était vraiment mon bras droit, qui s'occupait entièrement de moi en tout. Je suis en train de perdre le poids, pas que je suis malade, mais c'est l'excès des soucis.
Ben, un réfugié centrafricain, a perdu son neveu, âgé de 16 ans. Sidonie, quant à elle, réclame justice pour son fils unique de 24 ans. Au total, 4 familles se sont constituées partie plaignante avec l'aide du Centre pour l'environnement et le développement, une ONG locale. Docteur Samuel Ngifo, secrétaire général du CUD.
Partout où on a des activités d'exploitation minière, on a des risques importants pour les populations. Et nous pensons qu'il faut arriver à changer la pratique de l'exploitation de l'or, surtout avec les substances utilisées comme le mercure et le cyanure, qui, bien qu'interdites, sont extrêmement développées dans les chantiers.
Le 31 mai 2021, en quête de l'or, des milliers de personnes ont pris d'assaut le chantier minier de la société chinoise Menchenu Wang Woping au village Cambélé 3. Un éboulement de terre s'en est suivi, causant ce jour-là 4 morts. Dieudonné Ndissé, avocat des victimes de l'accident minier au village Cambélé 3.
Un site minier doit être protégé pour éviter la présence des personnes non autorisées. Mais quand vous ouvrez votre site et vous appelez les gens pour venir faire le sasaïe, c'est pour encourager les accidents de ce genre. Ils n'ont pas pris les précautions nécessaires à l'effet d'éviter les cas de mort.
À l'absence de la partie chinoise et de son conseil, pourtant notifié par la justice, sous la tenue du procès, le tribunal a décidé de faire une descente sur le terrain pour constater la matérialité des faits. Du côté de l'administration, le préfet, en poste seulement depuis 10 mois, a suspendu le 27 juillet dernier les activités des sociétés minières dans le village Cambélé 3. Une première dans cette localité.
Yakuba Jadai, préfet du département de la Kadéi.
Il faudra qu'après exploitation minière, nous devrions, n'est-ce pas, reconstituer l'environnement. Nous avons aussi pris cet acte parce que nous constatons dans les sites miniers les trous qui sont, n'est-ce pas, des lacs artificiels. Conformément, n'est-ce pas, au code minier, lorsque une exploitation est terminée, les trous en fait devraient être refermés systématiquement.
Selon les sources de la société civile, au moins 200 personnes sont mortes dans les chantiers d'exploitation de l'or ces 7 dernières années dans l'est du Cameroun. Emmanuel Jonathan pour VOA Afrique, Yaoundé.
Au Togo, les faux médicaments ont envahi les marchés et les coins de rue dans plusieurs villes du pays, malgré les efforts du gouvernement pour freiner le phénomène. Les difficultés du circuit officiel d'approvisionnement de certains médicaments profitent aux trafiquants. Aux côtés des services de répression, les associations de la société civile mènent aussi ce combat. De Lomé, notre correspondant Kossi Wosu.
Les statistiques avancées par les autorités sur les saisies des faux médicaments sont constantes ces dernières années au Togo. Selon le colonel Yao Kondi de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment, une collaboration entre plusieurs services permet la mise en place d'un dispositif pour la saisie des faux médicaments.
Ce dispositif s'articule autour de deux structures qui sont le Comité national antidrogue et l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment. Ce dispositif a permis, par exemple, pour l'année 2021 de saisir près de 70 tonnes et d'interpeller et traduire devant la justice une dizaine de personnes impliquées.
Pour la ministre Mamesile Agbaassi, également directrice de la centrale d'achat des médicaments, la présence de ces faux médicaments sur les marchés est aussi liée aux difficultés d'approvisionnement par les canaux officiels.
Nous sommes confrontés aujourd'hui à la difficulté d'avoir des sources fiables. Et dans le cas de la COVID, par exemple, nous avons pu le voir, dès qu'il y a une demande forte sur un produit, ça attire automatiquement également l'appétit de tous ceux-là qui, à côté, cherchent les failles de nos systèmes pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations, même avec des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure.
Innocent Kweto, de l'Ordre des pharmaciens du Togo, renchérit.
Une des vulnérabilités de nos systèmes sont justement le lit de développement de ces circuits illicites et de ces faux médicaments dans nos pays, c'est le manque d'informations et la tromperie des fois que développent ces acteurs vis-à-vis des populations. Dans le domaine des faux médicaments, il y a aussi une infodémie importante contre laquelle aussi il faut lutter.
Dans ce sens, l'Association togolaise des consommateurs s'y implique à travers l'organisation de forums, séminaires et autres séances de sensibilisation. Fridolin Adonsou est le chargé des affaires juridiques à l'ATC.
L'objectif de l'ATC est de faire en sorte que le consommateur, en allant acheter le médicament, achète du médicament et non un poison. Donc il y a question de réveiller un peu les consciences, de sensibiliser les consommateurs, de mener des plaidoyers auprès des autorités, des parlementaires, pour que des actions fortes soient menées.
Le sujet des faux médicaments est pris au sérieux sur le plan continental. Une agence africaine des médicaments sera la solution, a affirmé Minata Samate Sesouma, commissaire à la santé à l'Union africaine lors de la session de l'OMS Afrique qui se déroule en ce moment dans la capitale togolaise. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Burkina Faso, c'est une lueur d'espoir pour de nombreux enfants. Des chercheurs ont mis au point un nouveau vaccin contre le paludisme. Le R21 a atteint un taux d'efficacité de 77%, une première dans le monde, car le taux d'efficacité fixé par l'OMS est de 75%. Si les tests de la phase 3 sont concluants, les chercheurs burkinabés vont utiliser ce vaccin à grande échelle l'année prochaine. De Ouagadougou, la correspondance, signée Lamine Traoré.
Le vaccin est développé par des chercheurs burkinabés de l'unité clinique de Nanoro, une bourgade située dans le centre-ouest à une centaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou. Le R21 est une version améliorée du RTSS. Efficace à 30%, il devient le premier vaccin à atteindre l'efficacité vaccinale de 75% fixée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Professeur Alidou Tinto est le chef de l'unité clinique de Nanoro.
Nous avons travaillé dans le développement du vaccin RTSS qui est aujourd'hui recommandé par l'OMS pour une utilisation mondiale. On a une efficacité assez modeste, de l'ordre de 30% sur 4 ans contre les paludismes graves. C'est une efficacité intéressante mais pas suffisante au regard justement de l'ambition que nous avons d'éliminer le paludisme à l'horizon 2020. C'est pourquoi après FSS, notre équipe en collaboration avec ses partenaires d'Oxford a entrepris de travailler sur une molécule de deuxième génération qu'on appelle le R21 qui nous a rapporté des résultats en tout cas jamais rapporté sur le plan mondial en matière de recherche sur la vaccinologie du paludisme, qui est une efficacité de 77% sur une année.
Le R21 a déjà été testé sur 450 enfants âgés de 5 à 17 mois et l'équipe rassure que les résultats de la deuxième et de la troisième phase de l'étude seront bientôt disponibles. Les professeurs Tinto.
Nous continuons le suivi des enfants sur 2 ans. Bientôt, vous aurez les résultats à la fin de ce mois. Des enfants à qui nous avons administré une dose de rappel. Alors, l'objectif pour nous, c'est d'accélérer l'agenda du développement de ce produit. Et c'est pourquoi nous avons parallèlement à la phase 2, initié une phase 3, où en plus du Burkina, nous avons inclus d'autres pays, notamment la Tanzanie, le Mali et le Kenya, et avec pour objectif que nous souhaitons en tout cas reproduire ce que nous avons vu en phase 2, ça veut dire une efficacité supérieure à 75%. Nous aurons les premiers résultats également de cette phase 3 bientôt en septembre, donc les 6 premiers mois. Et si nous avons une tendance à aller vers ce qu'on a obtenu en phase 2, et éventuellement ce vaccin pourrait être déjà déployé à l'horizon 2023, chez les 250 000 premiers enfants du Burkina qui seront vaccinés et suivis.
L'avènement de ce vaccin est une lueur d'espoir pour les professionnels de santé. Professeur Flakoïta, pédiatre au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo.
Selon les derniers rapports de l'Organisation mondiale de la santé, l'on a enregistré 241 millions de cas de paludisme à travers le monde et 627 000 décès. Plus de 95% des cas et des décès se sont observés dans la région africaine et particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. L'avènement d'un vaccin efficace constitue une lueur d'espoir, non seulement pour les enfants, les parents et nous, les médecins qui nous occupons de ces enfants.
Le Burkina Faso fait partie des 6 pays où on dénombre le plus grand nombre de cas de paludisme dans le monde. Près de 50% des hospitalisations, plus de 41% des motifs de consultation et plus de 30% des décès sont dus au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. En 2021, le Burkina a enregistré plus de 12 millions de cas de paludisme avec 4 355 décès. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
L'inflation a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans aux États-Unis, ce qui suscite des craintes de récession à Wall Street. Mais ce sont les petites entreprises et les clients qui semblent supporter le plus le poids de la flambée des prix. Pour VOA, Keith Kocinski s'est entretenu avec des vendeurs de rue de New York qui tentent de maintenir les prix bas et garder leurs pieds sur terre. Le récit du reportage, signé Michel Joseph.
Benjamin Nansang est un habitant de New York.
Si vous venez en Amérique, nous sommes connus pour la nourriture. Nous aimons notre nourriture.
Peu d'endroits peuvent égaler la diversité alimentaire de la Grande Pomme avec ses restaurants et ses petites boutiques pour vendre de la nourriture à chaque coin de rue. Aujourd'hui, l'inflation a provoqué une montée en flèche des prix des aliments dans l'une des villes les plus chères du monde. Silbert Gray, un autre résident de New York.
Aller chercher une empanada, le prix est passé simplement en deux secondes de 3 dollars à 4,5 dollars. C'est fou, c'est ridicule.
Selon l'indice des prix à la consommation du ministère américain de l'Agriculture, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 10% l'année dernière, l'inflation atteignant son plus haut niveau depuis 40 ans. Même les food trucks, ces camions de restauration rapide, ont augmenté leur prix. Dennis Apreza est propriétaire d'un de ces camions.
Nous sommes assez nerveux parce que nous ne voulons pas perdre nos clients fidèles qui nous suivent depuis 5 ans. Donc nous devons définitivement réfléchir 3 fois avant de le faire.
D'octobre à juin de cette année, les propriétaires du camion surnommé Le Taureau Rouge ont augmenté le prix d'un burrito de 1,50 $ pour un total de 13,50 $. Et ce prix peut encore augmenter. Mark Cohen est directeur des études sur le commerce de détail à l'Université de Columbia.
Every single product you buy, you consume that's food.
Chaque voiture que vous achetez doit être passée par une série de bateaux, de camions et de trains. Elle n'apparaît jamais comme par magie dans votre assiette.
Le prix diesel utilisé pour le transport des marchandises a augmenté de 66% l'année dernière. Selon les experts, le Covid a perturbé l'offre et la demande dans le monde et l'invasion de l'Ukraine est venue aggraver les problèmes. Le 16 août, le président Biden a signé la loi pour la réduction de l'inflation. Mais cette loi ne réduira l'inflation annuelle que de 0,1% en 5 ans environ. Mark Cohen de l'Université Columbia.
Il est probable que nous devrons nous contenter d'endurer cette situation pendant un an ou deux, jusqu'à ce que les prix commencent à se stabiliser.
Selon certains experts, lorsque les prix augmentent dans les restaurants plus chics, les vendeurs de nourriture dans les rues pourraient peut-être en profiter, car les clients veulent toujours manger vite et bien.
Oui, mangez vite et bien. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Bureau Afrique. Un grand merci à Joselle Morissin, Georges et Léonard Sagno et Michel Claire-Joseph pour la réalisation de cette édition. Merci également à toute l'équipe de rédaction. Eric Manilakiza a été avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24 sur votre site voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.